Thank you. C'est-à-dire que, même s'ils savaient qu'ils ne verraient sans doute pas de leur vivant la concrétisation de leurs désirs et de leurs objectifs, ce n'était pas grave. Ils étaient prêts à ce que ça s'étale sur plusieurs générations.
En 1939, c'est la ville de New York elle-même qui sert de vitrine médiatique à l'American Way of Life.
Our camera sweeps the horizon, turning in the direction of a new world that symbolizes man's dreams, prophecies, hopes and aspirations. The New York World's...
Pour la première fois, la ville accueille une exposition universelle. Cette manifestation est l'une des plus grandes opérations de relations publiques de l'histoire industrielle. Son principal organisateur n'est autre qu'Edouard Bernays.
Le rôle de Bernays a été de promouvoir l'exposition universelle et les différents pavillons et de faire venir de grandes entreprises comme General Motors, qui avait été son client dans les années 1930. Il appelait l'exposition « Democracity ». Il voulait fusionner la démocratie et le capitalisme.
De nombreuses grandes entreprises avaient des pavillons qui ne parlaient pas du présent, mais de l'avenir. Et les gens adorent ça, parce que dès qu'on commence à parler de demain, on peut inventer ce qu'on veut. Lors de l'exposition universelle, il y a eu un documentaire sur une famille du Middle West.
Hello, Mr. Middleton, how are you?
Full of Jim.
The son is... Le fils est socialiste et la fille qui vit à New York a une liaison avec son prof d'art plastique qui est un communiste.
Isn't it wonderful, Nick?
Beautiful.
L'histoire s'appelle « Les Middleton vont à l'exposition ». On les suit pendant leur visite, notamment dans le pavillon Westinghouse, parce que la compagnie d'électricité Westinghouse sponsorisait le film.
I guess we're a little early. What do you want to do?
Anything but inspect this temple of capitalism?
Oh, Nick.
Look at them. Their eyes popping out of their heads, drooling over the very things that are taking away their jobs.
Now, Nick, don't get all excited.
La grand-mère s'émerveille de tout ce qui va arriver dans la cuisine et elle est persuadée que l'ancien mode de vie n'est rien comparé à celui du futur.
It's a paradise. No one who hasn't cooked over a wood stove by the light of a kerosene lamp can really appreciate what it all means.
Tout le monde aura un robot pour faire la vaisselle. La belle vie est à portée de main. C'est pour demain.
The contest is over in exactly 7 minutes and 58 seconds. In that time, Mrs. Modern has washed 50 dishes and 40 pieces of silverware. As I... Well, it's all over, Mrs. Drudge. You may as well rest now. And so, ladies and gentlemen, I give you the winner, Mrs. Modern.
Ça nous montre qu'en découvrant un avenir industriel vraiment fun, le jeune homme abandonne ses idées anticapitalistes et devient une sorte de chantre du capitalisme.
Do you honestly believe that industry can make enough jobs in the future to take care of the young people that are coming along?
I think the problem is going to be the other way around. Industry will make so many jobs there won't be enough people to fill them.
Du coup, les gens n'avaient plus qu'une seule vision de la démocratie possible. Une démocratie capitaliste.
Efficace et omniprésente, ces campagnes de communication soulèvent néanmoins des interrogations. Certains dénoncent ouvertement la manipulation des esprits par les relations publiques. Une accusation qui s'adresse parfois directement à Edouard Bernays.
Modern science gives our opinion leaders weapons of mass impression which can slay our minds. The responsibility for averting such disaster rests squarely on the shoulders of those who now undertake opinion leadership. Freedom of propaganda is as important to our democracy as our other civil liberties. Freedom of religion, press, speech, the usefulness of propaganda makes it a vital asset to the democracy.
Most people would have...
La plupart des gens auraient très mal pris ce type d'accusation et auraient été offensés, mais Eddie Bernays a adoré. Ça montrait qu'il avait un réel pouvoir pour influencer l'opinion publique, et il avait toujours estimé que ce n'était pas une chose négative. Il se voilait beaucoup la face. Il pensait agir le plus souvent pour le bien commun.
Part of this system is a competitive battle, and part of that competitive battle is competing propaganda, competing advertising, competing for markets in the marketplace that is based on a free and open competition.
Ce n'est pas une concurrence libre, parce qu'elle coûte cher. Dans ce type de situation, ceux qui ont le plus de ressources, comme les grandes entreprises et parfois les gouvernements, gagnent à tous les coups, simplement parce qu'ils ont plus de moyens. Ça ne veut pas dire qu'ils gagnent en termes de résultats, mais ils partent avec plus d'atouts. Les gens ordinaires qui voudraient faire de la propagande, dans cette concurrence soi-disant libre, auront systématiquement moins de force de frappe et de moyens que les puissants.
I happen to be a technician on propaganda, and I am not a person who can solve your difficulties as to which ideology you prefer or don't prefer.
L'entrée en guerre des États-Unis en 1941 suspend les débats sur le rôle des relations publiques. La propagande de masse reprend pour soutenir l'effort de guerre avec les mêmes techniques que celles utilisées 20 ans plus tôt par la commission Krill.
Bernays a conseillé le gouvernement américain sur la manière d'utiliser les relations publiques et la propagande, mais il n'a jamais eu de rôle aussi central que pendant la Première Guerre. En partie parce que les relations publiques et la propagande étaient des outils mieux compris à l'époque, et que le gouvernement avait ses propres agences de propagande.
Les grands industriels vont voir dans la guerre un formidable outil de communication pour relancer leur campagne sur l'American Way of Life.
Les publicités regorgeaient d'images de ce qui attendait les Américains après la guerre. Parfois même dans une boule de cristal, c'est-à-dire un objet qui permet de voir l'avenir. Et cet avenir était un monde d'abondance et de consommation dès que la guerre prendrait fin.
Juste après la Deuxième Guerre mondiale, le monde des affaires a lancé une vaste offensive pour tenter de faire reculer les composantes progressistes du New Deal.
L'offensive, soutenue par l'industrie des relations publiques et Edward Bernays lui-même, s'explique par une reprise sans précédent des revendications sociales. De 1945 à 1946, près de 10 millions d'ouvriers descendent dans la rue et paralysent une grande partie du pays. En réaction, les grands industriels imposent au nouveau président Harry Truman une loi qui limite le droit de grève et le pouvoir des syndicats. Puis, ils confient la mission aux professionnels de la communication de faire passer les contestataires pour des citoyens opposés aux vraies valeurs de l'Amérique.
Dans les années 1950, il y a eu des campagnes massives qui ont été très étudiées d'ailleurs, pour prendre d'assaut les écoles, les universités, les ligues sportives, les églises et les usines, et leur imposer des cours pour inculquer l'américanisme, l'harmonie et la lutte contre l'ennemi. Bien sûr, l'anticommunisme a été utilisé à cette fin.
Communism controls one-third of the world's area. What are the facts behind the faces?
The whole United States.
Tous les Américains avaient peur de la guerre nucléaire.
Was afraid of nuclear war.
Je me souviens avoir plongé sous mon pupitre à l'école, comme tout le monde.
Tony knows the bomb can explode any time of the year, day or night. He is ready for it. Duck and cover.
La société américaine tout entière est prise de paranoïa aiguë.
It's a bomb. Duck and cover.
Celle de voir les Russes envahir le pays ou déclencher une guerre atomique.
Duck and cover. Duck and cover.
Ce climat national de détresse et de peur est directement utilisé par les spécialistes de la communication pour défendre des intérêts strictement privés. Au début des années 50, c'est un petit pays paisible qui va incarner à lui seul l'ennemi communiste qu'il faut abattre. Le 15 mars 1951, Jacobo Arbenz est démocratiquement élu président du Guatemala. L'une de ses premières décisions est de nationaliser, contre compensation, les terres non cultivées du pays pour les redistribuer aux paysans pauvres. Mais les trois quarts de ces terres appartiennent à l'une des plus grandes multinationales des États-Unis, la United Fruit Company.
I'm Chiquita Banana, and I've come to say bananas have to ripen in a certain way, and when they're flecked with brown and have a golden hue, bananas taste the best and are the best for you.
Pour la United Fruit Company, la décision du président Arbenz représente une sérieuse menace pour ses intérêts. Une contre-attaque médiatique s'impose. Elle est confiée à l'un de ses principaux conseillers, Edward Bernays.
Pour le compte de la United Fruit Company, Eddie Bernays a réussi à persuader la plupart des Américains et une grande part des Guatémaltèques que le gouvernement de gauche, qui venait d'être élu et voulait réformer un système économique archaïque, était en réalité la tête de pont de l'URSS. Eddie Bernays a lancé une campagne de guerre psychologique encore plus profonde et plus efficace que celle organisée pour le gouvernement américain pendant la Première Guerre.
Edward Bernays a d'ailleurs défini sa campagne de propagande par une expression empruntée à la guerre. Le Media Blitz.
Media Blitz signifie généralement qu'on passe son temps au téléphone avec différents journalistes influents et qu'on leur fournit très régulièrement la matière de leur reportage. Bernays a créé son propre bureau d'information et de dépêche sur le thème unique du Guatemala.
Le bureau de presse mis en place par Edward Bernays, officiellement considéré comme indépendant, est en réalité financé par la United Fruit Company. Il fournit à la presse l'essentiel de ses informations sur la nature supposée communiste du Guatemala. Edward Bernays organise même des voyages clés en main pour amener les journalistes sur le terrain.
Le résultat était que les journalistes ont relayé ces infos.
Un certain nombre de journalistes y ayant participé m'ont raconté des décennies plus tard qu'ils ont réalisé, après coup malheureusement pour eux et non au moment des faits, qu'ils avaient été utilisés et manipulés par Eddie Bernays pour le compte de la United Fruit Company. Ils ne l'avaient pas compris à l'époque.
Guatemala falls under a communist-dominated regime. Following a reign of terror manipulated by such communists as the Argentinian Che Guevara, who later goes to Cuba, the common people of this tiny nation rise up.
Eddie Bernays a joué sur la peur des soviétiques et de la montée du communisme de manière abusive, selon moi. Ça a contribué à convaincre le gouvernement américain qu'il devait intervenir dans les affaires du Guatemala.
Le 18 juin 1954, le président Arbenz est renversé par les forces rebelles de Castillo Armas, avec le soutien décisif de la CIA. Son arrivée au pouvoir marque le début d'une guerre civile qui durera 40 ans et fera plus de 200 000 morts.
We know you like bananas.
La campagne de propagande menée par Edward Bernays a duré 3 ans.
Il a aidé à saboter la légitimité d'un gouvernement de gauche élu démocratiquement, et c'était dangereux. Non seulement pour le Guatemala, mais aussi parce que ça a inauguré un nouveau schéma de politique extérieure. C'était normal pour les États-Unis d'intervenir et ils pouvaient avoir de bons résultats. Ça n'a pas marché avec Cuba, alors qu'on pensait pouvoir renverser le régime castriste. Ou des années plus tard au Vietnam, quand on a cru pouvoir imposer un gouvernement qui nous était favorable au Sud-Vietnam.
Un an après le coup d'État au Guatemala, toutes les sphères de la société. En 1990, 5 ans avant sa mort, Edward Bernays est élu par le magazine Life l'une des 100 personnalités américaines les plus influentes du XXe siècle.
Je ne crois pas que mon père ait jamais sciemment menti. Peut-être que oui. Mais la vérité a différentes facettes et on ne peut pas les isoler.
Quand on a des gens qui voient leur rôle, comme c'était le cas de Bernays, comme des ingénieurs du consentement, la démocratie devient une mascarade.
Ce n'est pas juste une question d'argument et de persuasion. C'est une modification de la société. C'est l'essence de la propagande. C'est l'essence des relations publiques. Il s'agit de promouvoir et de concrétiser des objectifs et des intérêts pour des commanditaires. Et ces gens sont principalement des intérêts puissants, de grandes entreprises et des gouvernements.
Quels sont les buts qu'on poursuit? Est-ce qu'on travaille pour un client? Et si ce client n'est pas représentatif de la population globale, alors on a un problème. Ça veut dire que des intérêts privés ou un petit nombre de personnes créent des fictions publiques et les considèrent de la plus haute urgence, ce qui leur permet de foutre le bordel dans nos cerveaux.
Rein, zwei Studiogäste haben sich hier bei Radio Dreieckland im Studio eingefangen. Der Arndt und der Tobias von Extinction Rebellion, der Ortsgruppe hier in Freiburg. Am nächsten Montag wird im Hauptausschuss des Gemeinderates in öffentlicher Sitzung die Beteiligungsberichte der städtisch beeinflussten Gesellschaften anstehen. Wir haben hier auf unseren Computern die Präsentation.
Ja, op een gegeven moment moeten we beginnen. Hier is, voor de rest is wel lekker reserveren en dan op stap gaan, maar dan moet je wel op tijd terug zijn.